Imaginez un instant la scène. Nous sommes sur l'un des chantiers de fouilles archéologiques les plus prestigieux au monde, à Megiddo, au Moyen-Orient. Des équipes de spécialistes vraiment hautement qualifiés travaillent méticuleusement. Et pourtant, et c'est ça qui est dingue, dans le tas de gravats qu'ils ont jugés sans intérêt et qu'ils ont juste jetés sur le côté, des bergers locaux découvrent plus tard un trésor inestimable.
Ah oui, la fameuse trouvaille de Megiddo.
Exactement. Ils trouvent une version cunéiforme de l'épopée de Gilgamesh. C'est l'un des chefs-d'œuvre littéraires les plus fondamentaux de l'histoire de l'humanité. Et il a été balayé comme un vulgaire déchet par des experts.
C'est une histoire vraie, ouais. Et elle illustre à la perfection la fragilité de notre rapport au passé. Et on pourrait se demander comment des esprits aussi brillants ont pu commettre une telle bévue.
Ouais, comment c'est possible ?
La réponse est d'une banalité affligeante, en fait. Une tablette d'argile qui a été recouverte de boue séchée pendant 3 millénaires, ça ressemble à rien d'autre qu'un simple caillou informe.
Juste un vulgaire caillou, quoi.
Tout à fait. Il a fallu qu'elle soit abandonnée sous la pluie, que l'eau lave lentement la terre accumulée, pour que les minuscules incisions cunéiformes apparaissent enfin à la lumière du jour.
C'est à la fois fascinant et... un peu terrifiant en tant que passionné, quand on réalise que cela implique pour notre compréhension globale de l'histoire.
D'accord. Décortiquons tout ça.
Allons-y. L'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est d'analyser la relation incroyablement complexe et franchement souvent caricaturée entre l'archéologie et l'histoire biblique. Et plus spécifiquement, on va s'intéresser à la période qui débute avec la Genèse, au chapitre 12, donc l'époque d'Abraham.
C'est une période charnière.
Ouais, parce que c'est le moment précis où les données archéologiques commencent réellement à exister dans cette région du monde. Et notre fil conducteur, pour naviguer dans ce labyrinthe, c'est une analyse très riche, issue de la leçon 18 de Robert Van Hooy, qui est consacrée à l'histoire de l'Ancien Testament.
Et c'est un point de départ vraiment fantastique, parce que l'analyse ne se contente pas de lister des vieilles pierres, si je puis dire. Elle interroge la méthodologie elle-même. Mais avant d'aller plus loin, il est primordial de préciser que l'intention de notre analyse ici n'est absolument pas de prendre parti.
Non, pas du tout.
Voilà, on ne défend aucune idéologie religieuse sur la véracité des textes, pas plus qu'on ne soutient les critiques laïques. Hein. L'exercice consiste purement et simplement à exposer la mécanique de la discipline archéologique telle qu'elle est présentée dans nos sources. Il s'agit de comprendre ce que cette science peut accomplir, mais surtout d'identifier ces immenses angles morts quand on lui demande de valider des récits antiques.
Ce qui nous amène immédiatement à un piège massif, un véritable gouffre intellectuel dans lequel tombent souvent deux camps qui d'habitude s'opposent sur absolument tout.
Exactement. C'est ce qu'on pourrait appeler le piège de l'instrumentalisation. D'un côté, on observe l'approche de certains érudits que l'on qualifie de critiques. Leur logique, elle s'articule un peu comme ça. Si l'archéologie ne fournit pas la moindre preuve matérielle, une preuve tangible et incontestable d'un événement ou de l'existence d'un personnage décrit dans les textes anciens, alors le texte en question est jugé suspect, voire carrément factuellement faux.
Donc le silence de la Terre équivaut à une preuve d'inexistence.
C'est ça. Pour eux, pas de traces, pas de faits.
Mais je dois avouer que, de prime abord, ce scepticisme, il semble sain, non ? Je veux dire, si un texte affirme qu'un empire gigantesque a dominé une région pendant des siècles et qu'on trouve ni murs, ni poteries, ni pièces de monnaie, il est logique que quiconque lise ça aujourd'hui se dise « c'est sûrement un mythe ».
Oui, c'est une réaction très naturelle et c'est justement tout le problème. Car cette idée présuppose que le sol nous a déjà tout révélé, ce qui est très très loin d'être le cas. Et paradoxalement, de l'autre côté du spectre, on trouve un piège similaire tendu par des érudits, disons, extrêmement conservateurs.
Qui font l'inverse, j'imagine.
Tout à fait. Eux, ils attendent de l'archéologie qu'elle agisse un peu comme un avocat de la défense, quoi. Ils scrutent chaque pelletée de terre pour prouver la véracité littérale de la Bible. Donc, dès qu'une découverte semble même vaguement corroborée en récit, ils s'en emparent direct et la présentent comme une preuve scientifique irréfutable.
Mais... le problème majeur avec cette stratégie, c'est qu'on lie sa certitude absolue à une discipline qui est, par définition, en constante évolution. Que se passe-t-il le jour où, je sais pas, une nouvelle équipe de chercheurs arrive avec de meilleurs outils de datation au carbone 14 et déclare que la fameuse trouvaille date en fait de 3 siècles plus tard ?
Eh ben, c'est la catastrophe pour leur argumentation. Ils se retrouvent totalement piégés par la science même qu'ils utilisaient comme bouclier. Donc, dans les deux approches, qu'elles soient hypercritiques ou hyperconservatrices, l'erreur fondamentale est identique. On exige de l'archéologie une précision mathématique, une espèce d'autorité absolue et binaire, vrai ou faux, qu'elle n'est tout simplement pas structurée pour offrir.
Ouais. Et pour vraiment saisir pourquoi cette discipline est si limitée dans ses affirmations, il faut se pencher sur la nature même des vestiges. C'est là que notre source s'appuie sur le travail de l'historien Edwin Yamauchi, qui théorise ce qu'on pourrait appeler la règle des fractions. L'idée centrale, c'est que les preuves historiques sont, par essence, atrocement fragmentaires.
C'est le mot, oui.
Seule une fraction minuscule de ce qui a un jour existé parvient jusqu'à nous.
Ouais, c'est le premier filtre impitoyable du temps, en fait. Les civilisations antiques écrivaient abondamment, certes, mais sur des matériaux périssables. On parle de papyrus, de parchemin, de cuir, de bois. Face à l'humidité, aux incendies ou juste à la décomposition naturelle, ces supports s'effacent complètement. C'est une perte incalculable d'informations qui ne reviendra jamais.
Je comprends tout à fait qu'un bout de papyrus finisse en poussière. Ça, c'est de la matière organique. Mais qu'en est-il de l'architecture monumentale ? Les anciens y bâtissaient des temples immenses, des murailles de ville avec des blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Ces éléments, ils s'évaporent pas comme du papier, si. Comment on peut perdre la trace d'infrastructures entières ?
Et c'est là qu'intervient l'activité humaine, qui est souvent bien plus destructrice que les éléments naturels. Faut se mettre à la place d'un bâtisseur de l'Antiquité ou même du Moyen-Âge, hein. Vous devez construire un nouveau palais ou de nouvelles fortifications. L'extraction de la pierre dans une carrière, c'est un effort colossal. Ça demande des outils, de la main-d'œuvre, beaucoup de temps.
Ouais, ça coûte cher.
Mais juste à côté de votre chantier, il y a les ruines d'une ville abandonnée ou d'un temple d'une civilisation précédente. Que faites-vous ?
Ah ben, je me sers. C'est un supermarché de la pierre de construction à ciel ouvert.
Absolument. C'est ce qu'on appelle le réemploi ou le pillage de pierre. Des murs gigantesques ont été démontés littéralement bloc par bloc pour construire les fondations de la ville suivante. Le résultat matériel, pour l'archéologue d'aujourd'hui, il est accablant, le bâtiment d'origine disparaît complètement.
Ça ne laisse qu'un vide.
C'est ça. Les statistiques fournies par la source sont d'ailleurs saisissantes à ce sujet. Si on prend la Palestine du 1er siècle de notre ère, historiquement, on sait de sources sûres qu'il y avait probablement des centaines de synagogues réparties sur tout le territoire.
Des centaines de bâtiments importants qui accueillaient des communautés entières chaque semaine. Et pourtant, la récolte archéologique est super magre. À ce jour, une seule synagogue datant d'avant la destruction de l'an 70 après Jésus-Christ a été formellement identifiée. Et c'est à Capharnaüm. Une seule trouvée sur des centaines possibles.
Ouais, c'est fou. Et le phénomène est encore plus frustrant quand on s'intéresse à l'épigraphie, donc l'étude des inscriptions gravées sur la pierre. La logique historique nous pousse souvent à comparer les cultures voisines. Par exemple, prenons le roi Mécha de Moab, un royaume adjacent à Israël.
D'accord.
On a retrouvé la fameuse pierre moabite, qui est une stèle triomphale imposante, où le roi relate ses victoires militaires. Elle est d'ailleurs exposée au Louvre. Et en observant les coutumes de la région, il est pratiquement certain que les rois d'Israël ont érigé des monuments commémoratifs similaires pour, disons, flatter leur ego de la même manière.
Bah oui, la mécanique du pouvoir antique l'exigeait. Ils devaient tout savoir, ces espèces de grands panneaux d'affichage royaux pour asseoir leur autorité.
Tout à fait. Et pourtant, sur toute cette longue période, les archéologues n'ont mis au jour qu'un seul et unique fragment d'une stèle monumentale israélite. Et le pire, c'est que ce fragment ne contient qu'un seul mot.
Un seul mot.
Un seul mot, oui. Le reste de la stèle a été brisé, probablement réutilisé pour paver une route, jeté dans un puits, ou alors il attend peut-être encore sagement sous 30 mètres de gravats.
C'est une super bonne manière de le visualiser. Pour ceux qui écoutent et qui s'intéressent à l'histoire, c'est comme essayer de comprendre l'intrigue politique super complexe d'un film de 2 heures, avec tous ses dialogues, ses trahisons et ses alliances, en ne regardant que 3 images floues tirées du film au hasard.
C'est une excellente métaphore.
On a quelques pixels et on doit déduire tout le scénario à partir de là. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait penser, de façon un peu naïve, que les archéologues fouillent partout, dans les moindres recoins, pour trouver ces quelques images manquantes. Mais les chiffres de l'exploration sont tout aussi restrictifs que la préservation elle-même.
L'échelle de ce qui n'est pas exploré donne littéralement le vertige. Pour bien comprendre ce goulot d'étranglement, il faut regarder les estimations citées par Van Hoy. En 1944, les relevés de surface avaient permis d'identifier environ 3000 sites archéologiques potentiels dans la région biblique. 2 décennies plus tard, en 1963, avec des méthodes de prospection plus systématiques, ce chiffre bondit à environ 5000 sites.
5000 lieues où des communautés entières ont vécu, fait du commerce, combattu, écrit.
Exactement. Or, sur ces 5000 sites identifiés, combien avaient fait l'objet de fouilles, même très partielles, au moment de cette estimation ? Environ 150.
Seulement 150 sur 5000.
C'est ça. Et si l'on resserre encore l'entonnoir, pour être plus précis, seuls 26 de ces sites avaient bénéficié de ce qu'on appelle des fouilles majeures. On passe d'un potentiel incroyable de 5000 fenêtres sur le passé à seulement 26.
C'est fou. Mais le problème, c'est que l'esprit humain a tendance à compenser ce chiffre, je trouve. On se dit naturellement, bon, d'accord, le tamis est extrêmement fin. Mais quand un site a la chance inouïe de faire partie de ces 26 élus, quand une université super prestigieuse y investit des millions de dollars et envoie ses meilleures équipes, ils finissent par retourner chaque grain de sable, non ? Je veux dire, la ville finit par livrer tous ses secrets.
Ah, ça, c'est la grande illusion de la discipline. L'idée qu'on exhume une cité entière est... C'est un mythe populaire total, souvent véhiculé par le cinéma. À quelques exceptions près, qui concernent des sites très isolés, de toute petite taille, ou qui ont connu une occupation très brève, comme la forteresse de Masada ou le site de Qumran, fouiller l'intégralité d'une zone urbaine antique est une tâche pratiquement impossible.
Mais pourquoi est-ce si difficile ? Qu'est-ce qui empêche une équipe bien financière, avec le matériel moderne, de simplement tout creuser ?
C'est lié à la nature même des sites au Moyen-Orient, ce qu'on appelle souvent des tels, T-E-2-L-S. Il faut s'imaginer un millefeuille géant, composé de couches de terre, de briques crues effondrées et de fondations. La dynamique est simple, une civilisation construit une ville, elle est détruite par un tremblement de terre ou une guerre. Les survivants ne déblayent pas tout au bulldozer.
Ils n'avaient pas les moyens de le faire de toute façon.
Voilà. Ils nivellent très grossièrement les ruines avec les débris de l'ancienne ville et ils construisent la nouvelle ville directement par-dessus. Et ça, ça se répète sur des millénaires. Du coup, l'Institut oriental de l'Université de Chicago en a fait la douloureuse expérience à Megiddo. Ils avaient ce projet faramineux d'enlever le monticule couche par couche sur toute sa surface. C'était censé être la fouille parfaite et définitive.
L'approche méthodique par excellence. On retire une nappe urbaine avec précaution pour révéler celle juste en dessous.
L'idée était belle, en théorie. Ouais. Mais en pratique, la réalité du terrain les a rattrapés. Ils ont dû s'arrêter après avoir seulement dégagé les quatre premières strates supérieures.
Ah ouais, c'est rien du tout.
La quantité de mètres cubes de terre à déplacer, la lenteur extrême requise pour documenter la moindre trouvaille en contexte, les coûts astronomiques, c'était totalement gérable. Et cela nous amène au chiffre sidérant de l'archéologue Yigal Yadin sur le site de Hazor, qui est l'une des villes les plus importantes de la région. Yadin a mené des fouilles massives, avec des moyens considérables pour l'époque, pendant 4 saisons entières.
Ce qui représente un effort logistique colossal sur le terrain.
Absolument. Et malgré cela, au terme de ces 4 saisons de labeur intensif, ils ont estimé n'avoir déblayé qu'un 400e du site. Seulement un 400e.
C'est dingue. C'est à peine une égratignure sur la surface du site. Si on fait le calcul, Yadin lui-même affirmait qu'à ce rythme de progression, il faudrait 800 ans de travail continu pour fouiller Hazor dans sa totalité. 800 ans ! Ça veut dire que si une équipe d'érudits avait commencé à creuser minutieusement le site à l'époque des croisades, en plein Moyen-Âge, elle serait tout juste en train d'emballer ses pelles et ses truelles aujourd'hui. C'est absolument fou de s'imaginer ça. Et si on extrapole ce calcul mathématique à des mégapoles de l'Antiquité comme Babylone, qui s'étalait sur environ 2500 acres, on parle de 8000 ans de fouilles.
Ça démontre implacablement le facteur aléatoire inhérent à l'archéologie. Quand on plante la pioche, c'est comme un coup de poker. On parie. On suppose que le palais royal se trouve ici, que les portes de la ville sont là-bas. Et pendant qu'on découvre une série de poteries tout à fait ordinaires dans notre petit carré de fouilles, les archives diplomatiques secrètes d'un roi antique dorment peut-être paisiblement à 10 mètres de là, sous le sol qu'on ne creusera tout simplement jamais.
C'est d'ailleurs ce qui explique le cas de l'épopée de Gilgamesh évoquée au tout début de notre exploration. Quand on fouille un 400e d'un site en tamisant des tonnes de gravats, la fatigue, la boue, tout contribue à laisser passer des artefacts inestimables. Mais alors, une question me vient à l'esprit là.
Je vous écoute.
Quand on a enfin franchi tous ces obstacles incroyables, qu'on a trouvé le site, qu'on a financé la fouille, creusé au bon endroit, par miracle, reconnu l'objet malgré la couche de boue et qu'on l'a mis à l'abri, au sec, dans les réserves climatisées d'un musée, là, au moins, le travail archéologique est fait, l'information est sauvée et mise à la disposition des historiens, non ?
C'est une conclusion qui semble hyper logique, mais qui est malheureusement fausse. C'est ce qu'on pourrait appeler la règle du goulot d'étranglement de la publication. Exhumer un objet physique de la Terre, c'est une chose, mais extraire l'information historique qu'il contient, c'en est une autre, et c'est bien plus ardu. Prenons les tablettes cunéiformes, qui étaient le support administratif et littéraire de l'époque. Selon le chercheur Samuel Kreimer, qui est cité dans notre analyse, on estime qu'environ 500 000 de ces textes ont été exhumés au fil des décennies de fouilles.
500 000 de documents primaires, c'est une bibliothèque colossale, ça.
C'est monumental. Sauf que, selon ce même Kreimer, seulement environ 10% de ces documents ont été réellement publiés et rendus accessibles à la communauté scientifique.
Attendez, quoi ? 10% ?
Ouais.
Donc 90% de ces textes, ce qui fait environ 450 000 documents vieux de plusieurs millénaires, sont simplement stockés quelque part, dans des caisses, sans que personne ne sache ce qu'ils disent. Mais comment c'est possible d'arriver à un tel embouteillage ?
Les mécanismes de ce retard, ils sont purement pragmatiques, en fait. Déjà, la maîtrise de l'acadien, du sumérien ou des autres langues anciennes complexes, c'est extrêmement rare. C'est un travail de niche. La traduction d'une seule tablette, qui est souvent ébréchée ou endommagée, ça peut prendre des semaines, voire des mois de travail fastidieux à un épigraphiste.
Il faut des experts très spécialisés.
C'est ça. Et ensuite, il y a la froide réalité financière. Les musées et les grandes universités trouvent beaucoup plus facilement des fonds pour financer des foulées spectaculaires en plein désert, parce que ça attire les donateurs et les médias, ça fait rêver. Que pour financer le salaire d'un chercheur assis pendant 10 ans dans un sous-sol poussiéreux, dont le seul but est de traduire des listes de rations de grains ou des contrats de mariage.
Ah ouais, le travail de l'ombre, c'est moins vendeur.
Exactement. Et l'exemple du fameux code de loi de Lipitishtar est super éloquent en sujet. Ce code, il a été excavé par une expédition de l'université de Pennsylvanie. Et ensuite, que s'est-il passé ?
Je crains le pire.
Il a été soigneusement rangé sur une étagère du musée de l'université à Philadelphie, où il a dormi tranquillement pendant près de 70 ans.
70 ans ?
Oui. Il a fallu attendre la fin des années 1940 pour que Francis R. Steele tombe dessus, l'examine, le traduise et révèle enfin au monde un texte juridique majeur qui est antérieur au célèbre code d'Hammurabi.
C'est saisissant. En fait, les réserves des musées sont devenues elles-mêmes de nouveaux chantiers de fouilles. On doit fouiller ce qu'on a déjà trouvé. Au fond, toutes ces étapes, la disparition naturelle des supports, le réemploi des matériaux par d'autres peuples, le nombre infime de fouilles réelles, l'immensité des sites qui découragent l'exploration totale, et bien sûr le retard fou des traductions, tout cela confirme les fameux cercles de preuves de Yamauchi dont on parlait, qui se superposent si rarement. Ce qui est essentiel pour ceux qui s'intéressent au débat moderne, c'est de comprendre que l'absence de preuves matérielles ne signifie strictement rien.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point cet argument du silence a été, et franchement est encore, utilisé de manière assez abusive. On érige le vide en dogme scientifique. Prenons un exemple classique, Ponce Pilate, le préfet romain célèbre pour son rôle dans le Nouveau Testament.
Tout le monde connaît ce nom.
Ouais. Eh bien, pendant des décennies, de nombreuses voix critiques très respectées ont pointé l'absence de traces archéologiques de son existence, pour affirmer avec aplomb qu'il s'agissait d'une pure invention théologique. L'argument semblait implacable, très rationnel, jusqu'en 1961.
Que s'est-il passé en 1961 ?
Une équipe italienne qui fouillait le théâtre de Césarée a littéralement retourné une pierre qui était utilisée comme simple marche dans un escalier. Et surprise, ils ont découvert une inscription dédicatoire très claire portant le nom et le titre de Pilate. L'absence de preuves a volé en éclats. Et le même scénario, exactement le même, s'est répété pour Hérode le Grand, dont le nom n'est apparu de manière formelle et épigraphique qu'entre 1963 et 1965.
Et la source mentionne que le même genre de doute plane toujours sur Darius le Mède, qui est cité dans le livre de Daniel. Parce que la pioche d'un archéologue n'a pas encore heurté une pierre avec son nom, certains chercheurs en déduisent catégoriquement qu'il est fictif. Mais au vu du véritable parcours du combattant qu'est la préservation historique, comme on vient de le voir, affirmer une inexistence sur la seule base du silence, ça relève d'une grande naïveté statistique, non ?
C'est complètement ça. Et surtout que se fier à l'absence de preuves, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour la science archéologique elle-même. La source décrit le cas de John Garstang. Et franchement, c'est une excellente illustration de la subjectivité de ce domaine.
Racontez-nous ça.
C'est un vrai cas d'école concernant les biais méthodologiques. Dans les années 1920, Garstang mène des fouilles à Azor. Son objectif principal, c'est de vérifier si la ville était occupée et florissante au XIIIe et XIVe siècle avant notre ère.
D'accord.
Pour déterminer cela, il ne cherche pas au hasard. Il cherche un marqueur temporel précis, la poterie mycénienne. Elle est typique de cette époque et elle était très répandue dans les échanges commerciaux de toute la région. Donc il creuse, il cherche dans son secteur et il ne trouve absolument aucun tesson mycénien. Rien. Zéro.
Sa conclusion est alors super directe. Puisqu'il n'y a pas de poterie mycénienne dans son trou, il n'y avait pas de cité florissante à Azor à cette époque précise. Le dossier est clos, on range les outils, la théorie est publiée dans les revues.
Voilà. Sauf que, comme nous l'avons souligné plus tôt, Azor est un site gigantesque. Des décennies plus tard, dans les années 1950, le fameux archéologue Yigal Yadin reprend les fouilles sur le même site. Et comment l'archéologie moderne fonctionne-t-elle? Yadin ouvre de nouveaux secteurs de fouilles à seulement quelques centaines de mètres des anciennes tranchées creusées par Garstang.
Et j'imagine que la surprise était de taille.
Et comment? La stratigraphie du terrain à cet endroit spécifique révèle alors des sols entiers qui sont littéralement jonchés de cette fameuse poterie mycénienne. La conclusion initiale de Garstang était complètement, factuellement fausse. Non pas parce que l'homme était incompétent, attention, mais parce qu'il avait confondu l'absence locale dans sa petite zone de fouille avec une absence totale sur l'ensemble de la métropole.
Cela nous rappelle avec une force incroyable que les faits archéologiques ne sont pas des paroles d'Érangile écrites sur les murs en lettres lumineuses. Les pierres ne murmurent pas leur histoire toutes seules. Et cela change la façon dont on doit percevoir le travail quotidien de l'archéologue. C'est pas un lecteur qui traduit un texte clair et net, il ressemble bien plus à un détective arrivant sur une scène de crime vieille de 3000 ans. Il a des indices partiels, des objets déplacés par le temps, et il doit construire une hypothèse fragile pour expliquer ce qui a bien pu se passer. Et cette hypothèse est par nature subjective et sujette à l'erreur humaine.
C'est exactement l'essence de l'avertissement lancé par l'archéologue James Pritchard dans les documents que nous analysons aujourd'hui. Il rappelle très justement que l'interprétation d'un objet repose sur une très longue chaîne de déductions logiques. Quand un archéologue trouve une série de murs ou des récipients en argile enfouis, aucun de ces éléments n'est accompagné d'une petite étiquette explicative précisant son usage ou le nom de son propriétaire.
Ah, ce serait trop facile.
Le jugement historique est, de fait, une construction de l'esprit. Elle est basée sur les connaissances du moment, l'expérience personnelle du chercheur, et parfois même, on doit l'avouer, sur ses propres attentes culturelles ou religieuses.
La conférence de Robert Van Wye met d'ailleurs en évidence deux exemples assez spectaculaires de cette vulnérabilité interprétative, où de très grands experts, très respectés, ont dû faire un virage à 180 degrés devant l'évidence. Le premier, ça concerne ce qu'on appelait triomphalement les écuries de Salomon, toujours à Megiddo.
Ah oui, un classique.
C'était la véritable star de l'archéologie biblique à l'époque. On avait déterré d'imposants bâtiments, bien structurés par des rangées de piliers en pierre massif. Et le détail crucial qui a tout déclenché, chaque pilier comportait un trou sculpté près de son sommet.
La déduction initiale de l'équipe de fouilles semblait brillante. Vous avez de grands bâtiments, des piliers robustes, des trous ressemblant étrangement à des anneaux d'attache. Bon, il s'agissait sûrement, selon eux, des fameuses écuries du roi Salomon qui sont mentionnées dans les textes sacrés pour abriter ses milliers de chevaux.
Ça collait parfaitement au récit.
Voilà. Et pendant de très nombreuses années, cette interprétation a figuré noir sur blanc dans les manuels scolaires et les guides touristiques comme un fait historique incontestable.
Mais là encore, on voit que la science n'est jamais statique. Comment sont-ils venus à réaliser qu'ils avaient tort sur toute la ligne ?
Eh bien, l'évolution de l'interprétation s'est faite sur deux fronts bien distincts. Premièrement, il y a eu une amélioration nette des techniques d'analyse stratigraphique. En réévaluant les couches de destruction du site et la typologie exacte des poteries retrouvées dans ses fondations, des experts, dont James Pritchard, ont conclu que le complexe ne datait pas du tout du Xe siècle avant notre ère, qui est l'époque de Salomon. Il datait plutôt du IXe siècle, probablement sous le règne du roi Achab. Le lien chronologique avec Salomon était soudainement brisé net.
C'est un coup dur. Mais qu'en est-il de la fonction même du bâtiment ? Les chevaux de Salomon ou d'Achab, peu importe, c'était toujours des écuries, non ?
Eh bien, même pas. La méthode archéologique repose beaucoup sur la comparaison. En étudiant d'autres structures contemporaines qui ont été découvertes ultérieurement dans la région, les chercheurs ont réalisé que ce plan architectural correspondait plutôt à des entrepôts publics pour stocker des denrées ou à des baraquements militaires.
Et les fameux trous dans les piliers alors ? Les anneaux d'attache ?
C'est là que l'ingénierie structurelle a apporté une réponse, disons, bien plus prosaïque. Ils ne servaient pas du tout à attacher des chevaux. Ces trous permettaient simplement d'insérer des poutres de soutien en bois transversal pour maintenir la toiture du bâtiment. C'était une astuce de construction, rien de plus. Et en un clin d'œil, la preuve éclatante qui validait les textes a été rétrogradée au rang de simple entrepôt du siècle suivant.
C'est fascinant comme l'interprétation change tout. L'autre exemple majeur qui est mentionné dans l'analyse, c'est celui des découvertes de Nelson Gluck à Eziongeber. Dans les années 1930, cet explorateur, hyper renommé, a mis au jour des structures étranges et il les a identifiées, avec une très grande assurance, comme des fonderies et des hauts fourneaux extrêmement sophistiqués pour le raffinage du cuivre. Il a d'ailleurs immédiatement lié ce vaste complexe industriel au commerce naval et aux richesses métallurgiques de Salomon.
Ouais, et là encore, l'hypothèse de Gluck s'emboîtait parfaitement, presque trop parfaitement, avec le cadre historique que tout le monde attendait. Mais avec le temps et l'avancement des méthodes de fouille, des équipes de chercheurs ultérieurs sont revenues sur les données brutes, en étudiant un peu plus précisément les processus métallurgiques de l'Antiquité et surtout l'architecture environnante, il est devenu évident que ces structures ne pouvaient physiquement pas supporter les températures extrêmes d'un haut fourneau.
Ça aurait fondu ou explosé, j'imagine.
Exactement. Ce qui était décrit dans les médias de l'époque comme le centre névralgique de la grande industrie du cuivre salomonienne s'est avéré être un tout autre type d'installation. Possiblement de simples entrepôts ou des greniers fortifiés pour protéger les récoltes. Gluck lui-même, en bon scientifique, a dû publiquement accepter la révision de sa théorie fondatrice.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi est-il si important pour nous d'examiner avec autant de minutie ces échecs, ces révisions constantes et toute cette poussière du passé ?
Si l'on relie cela à une perspective plus globale, je dirais que la leçon essentielle de cette plongée méthodologique, c'est vraiment la nécessité d'une profonde humilité intellectuelle. L'archéologie est un outil merveilleux, c'est indispensable. Elle projette une lumière inestimable dans les couleurs obscures du passé humain. Mais cette lumière, elle dépend toujours d'une lentille humaine qui peut déformer la réalité selon son angle. On ne doit pas demander une discipline si fragmentaire par nature d'offrir des certitudes mathématiques absolues.
C'est un fardeau trop lourd pour elle.
Ouais. Ni l'utiliser précipitamment comme une arme idéologique pour effacer des siècles de récits historiques sous prétexte que l'on n'a rien trouvé lors d'une campagne de fouilles dans un coin du désert.
C'est un point de repère crucial, surtout, je trouve, pour quiconque lit les grands titres actuels. Face à la précipitation de notre époque moderne, où l'on adore annoncer avec fracas que la science a définitivement prouvé ou réfuté telle chose, l'histoire des fouilles de Hazor ou de Megiddo agit comme un contrepoids vital. Ce qu'on enseigne comme un fait totalement incontestable aujourd'hui sera peut-être entièrement reconsidéré demain, simplement parce qu'un chercheur aura pris le temps de creuser quelques mètres plus loin ou d'analyser un morceau de céramique sous un nouveau microscope. La prudence n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire, c'est la marque d'un véritable esprit scientifique.
C'est très bien dit. Le passé en lui-même ne change pas, il est ce qu'il est. Mais l'histoire, elle, se réécrit en permanence à mesure que nous affinons notre petite capacité à interpréter les rares fragments qui ont survécu à l'usure impitoyable des millénaires.
Et cette idée de fragments perdus, ça me ramène irrésistiblement à cette statistique vertigineuse sur la publication des textes antiques qu'on évoquait tout à l'heure. Savoir que 90% d'un demi-million de tablettes d'argile n'ont toujours pas été lues. C'est presque poétique et en même temps un peu frustrant pour la passionnée d'histoire que je suis. Si l'archéologie nous enseigne une chose, c'est que la prochaine grande révolution dans notre compréhension du monde ne nécessitera peut-être même pas un nouveau chantier de fouilles coûteux dans le désert brûlant. Quelque part, en ce moment même, dans l'ombre tranquille du sous-sol d'un musée prestigieux, à l'intérieur d'une simple boîte en carton numéroté, repose peut-être la chronique d'un roi totalement oublié, ou un poème épique capable d'éclire ses Gilgamesh, un mystère vieux de 3000 ans endormi sous la poussière qui attend simplement qu'on prenne le temps d'apprendre à le lire. C'est tout pour notre analyse d'aujourd'hui. Restez curieux et souvenez-vous que le silence n'est jamais une preuve d'absence.